20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est à l'une des plus grandes figures de la direction que nous consacrerons ce journal du classique. Celui qui a présidé aux destinées des orchestres parmi les plus prestigieux au monde, à Berlin, Amsterdam et Leipzig, et dirige aujourd'hui l'opéra qui fait sans doute le plus rêver les amoureux du genre, La Scala de Milan. Riccardo Chailly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a passé toute cette semaine à Paris, à la Philharmonie de Paris, où il s'apprête à donner encore deux concerts ce soir et demain soir. Des concerts placés sous le signe de Beethoven. Beethoven célébrait donc à la tête de deux orchestres différents, le Philharmonica della Scala, avec lequel Riccardo Chailly était en tournée, et l'Orchestre de Paris, que le chef italien connaît bien et retrouve avec plaisir. C'est l'Orchestre de Paris qu'il dirige d'ailleurs ce soir et demain soir dans la 9e symphonie de Beethoven, des symphonies, celle de Beethoven, que Riccardo Chailly fréquente depuis des années, dont il nous a offert une remarquable intégrale au disque il y a un peu moins de 10 ans avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Alors il venait à peine de poser sa baguette, était encore sur le plateau de la Philharmonie où venait de s'achever sa répétition avec ses musiciens du Philharmonica della Scala quand je suis allée à sa rencontre au début de la semaine. Diriger Beethoven, est-ce toujours pour lui un défi et lequel? C'est la première question que je lui ai posée. On écoute Riccardo Chailly.
Is daily living dangerously?
C'est vivre dangereusement, car chacun sur scène est confronté à la difficulté et à la profondeur de sa musique. Et c'est bien là le génie de ce compositeur. Karajan, un jour, m'a dit, et il a entièrement raison, « Tu n'as pas besoin de renouveler Beethoven à chaque interprétation. Chaque fois que tu rejoues une symphonie, celle-ci se renouvelle par elle-même. » C'est incroyable, car la puissance des symphonies est indescriptible. L'unité de la 9e, dont les mouvements s'enchaînent, est un vrai miracle. À chaque fois que je dirige Beethoven, j'aime prendre des risques et relever les défis qu'il pose dans sa musique, en commençant par un travail au métronome pour aller dans un second temps au cœur du texte, qui est d'une grande complexité.
Et vous dirigez cette semaine Beethoven avec deux orchestres différents, votre orchestre Philharmonica della Scala et avec l'Orchestre de Paris. Avez-vous l'impression d'avoir deux approches différentes ou est-ce la même démarche ?
J'ai de très bons souvenirs de mes concerts avec l'Orchestre de Paris et j'ai hâte de pouvoir travailler de nouveau avec eux sur d'autres chefs-d'œuvre comme la 9e. Je pense que le processus d'interprétation reste le même. Je n'ai pas dirigé la 9e depuis quelques années, donc il y aura sans doute de nouvelles idées qui vont s'y glisser, mais globalement, l'idée que se fait le chef d'orchestre de la pièce doit rester la même. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les sons se combinent avec ceux d'un orchestre. Chaque orchestre a une personnalité propre, une identité au niveau du son. C'est le cas pour l'Orchestre de Paris, la Scala et tous les orchestres que j'ai dirigés. Donc à chaque fois, il faut apprendre d'un orchestre, apprendre à donner et à recevoir. C'est ce qui fait toute la beauté et le charme dans le fait de jouer du Beethoven avec différents orchestres.
Thank you. Le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven par Ricardo Chailly et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Ricardo Chailly qui dirige cette 9e symphonie ce soir et demain soir à la Philharmonie de Paris, à la tête de l'orchestre de Paris. Et c'est avec son orchestre, le Philharmonica della Scala, qu'il avait entamé cette semaine beethovenienne à la Philharmonie. Un orchestre fondé en 1982 par Claudio Abbado, réunissant des musiciens de la Scala, désireux de s'exprimer aussi dans le répertoire symphonique. Un orchestre avec lequel Ricardo Chailly a d'ailleurs réalisé quelques remarquables enregistrements et qu'il a fait briller sur les plus grandes scènes internationales. Il nous en dit plus ce soir sur l'identité, sur le son de cet orchestre.
Il faut savoir que c'est un orchestre d'opéra doté d'une grande flexibilité, c'est-à-dire capable de suivre n'importe quel tempo que les chanteurs choisissent, mais aussi capable de faire preuve d'une grande liberté pour ce qui est d'embrasser des dynamiques différentes. Nous jouons ce soir dans cette merveilleuse salle qu'est la Philharmonie de Paris et je ne fais que répéter aux musiciens qu'il y a tellement de nuances dans la partition qui les mettent au défi et qui peuvent leur permettre de se surpasser. Pour cela, il faut qu'ils sortent de leur zone de confort et ne cessent de réfléchir sur le sens de chaque détail de la partition. Vous apprenez vraiment lorsque vous vous dites que vous n'en savez jamais assez.
That you never know enough of it.
Et c'est un orchestre qui joue dans la fosse, c'est un orchestre d'opéra. Qu'est-ce qu'un orchestre d'opéra qui a l'habitude du théâtre, du drame, peut apporter à la musique symphonique et en particulier à la musique de Beethoven?
I think so. I think that the double activity.
Voilà plus de 30 ans que la Philharmonica della Scala interprète des opéras et cette double activité est très importante. Elle permet à l'orchestre d'approfondir la qualité et sa connaissance de la musique autour, aujourd'hui, d'un répertoire essentiellement tourné vers l'Europe centrale. En ce qui concerne Beethoven, on remonte à Giulini jusqu'au maestro Muti et Barenboim avant moi. Donc il y a bien un fil qui se déroule avec le temps et chaque chef d'orchestre se positionne par rapport à celui-ci.
Et quel répertoire, quels univers explorez-vous avec cet orchestre de la Scala sur le plan de la musique symphonique?
I do not want to put barriers.
Je ne veux pas mettre de barrières, mais j'ai bien fait comprendre depuis le début que le répertoire classique, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Beethoven, constituerait l'essentiel de notre travail. L'orchestre et moi avons une relation de longue date depuis une trentaine d'années et on ne peut pas passer à côté de Mahler. Mahler finit toujours par réapparaître à un moment ou à un autre. J'aimerais à l'avenir jouer du Bruckner parce que l'orchestre en a déjà joué avec d'excellents chefs invités et ils se sont vraiment fondus dans ce style de musique, la conséquence de leur répertoire majoritairement germanique. On verra bien où est-ce qu'on atterrira ensemble.
Thank you. Le prélude du premier acte dit Medici de Leon Cavallo par Riccardo Chailly à la tête du Philharmonica della Scala.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est donc à Riccardo Chailly qu'est consacré ce soir ce journal du classique à l'occasion de sa venue cette semaine à la Philharmonie de Paris. Riccardo Chailly qui dirige aujourd'hui et depuis plus de 4 ans la Scala de Milan, une institution, une fosse qu'il connaît bien et cela depuis de longues années. L'opéra est ainsi revenu au centre de sa vie de chef d'orchestre, comme il me l'a confié, revenant pour l'occasion sur son histoire avec la grande maison italienne.
J'ai commencé ma carrière musicale avec l'opéra, puis j'ai disparu quelque temps de cet univers car j'ai été nommé chef principal à Berlin pour plusieurs années, puis à Amsterdam, puis à Leipzig. Donc mon travail était principalement en lien avec le répertoire symphonique, mais j'ai toujours gardé contact avec la Scala. J'ai fait mes débuts à la Scala en 1978, à l'époque où Claudio Abbado était directeur artistique et il m'avait demandé, parce que Gianandrea Gavazzieni était malheureusement malade, de diriger I Masnadieri de Verdi, parce que je l'avais déjà dirigé l'été d'avant à l'occasion d'un festival d'orchestre de jeunes musiciens organisé par Hans Werner Henze à Montepulciano. C'est incroyable la manière dont les choses tournent dans la vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours maintenu un lien avec cet orchestre, que ce soit pour de la musique symphonique ou de la musique d'opéra.
Et quel plaisir particulier vous procure l'opéra par rapport au répertoire symphonique ?
You depend on the human voices.
Vous dépendez des voix humaines. Je ne peux pas établir de planning en disant « nous allons faire tel ou tel opéra ». Il faut se demander qui sont les meilleurs chanteurs disponibles dans le monde. Soprane, ténor, mezzo-soprane, baryton, basse, dans toutes les nuances de voix dont nous avons besoin pour un opéra. À partir du moment où l'on sait qui pourra venir chanter, on s'organise en fonction des disponibilités des chanteurs. C'est le cas lorsque j'ai voulu jouer Tosca pour l'ouverture de la saison de la Scala. C'est quand Anna Netrebko m'a dit « Oui, Riccardo, je chanterai Tosca à Milan » que j'ai dit « On le fait ». L'année dernière, on a joué Attila parce qu'Abdrazakov était disponible. Il faut toujours se concentrer sur les sources même d'interprétation en commençant par les voix des chanteurs. Et en ce qui me concerne, diriger des opéras me permet d'en apprendre toujours plus.
Et le prochain, ce sera Salomé de Strauss au mois de mars à la Scala. C'est un opéra qui occupe une place particulière dans votre cœur, Riccardo Chailly.
J'ai dirigé tellement de musique symphonique de Strauss. Et ce fut d'ailleurs un grand honneur de nous voir décerner cette année avec l'orchestre du Festival de Lucerne un diapason d'or pour l'album de Strauss. J'ai dirigé 2 fois Salomé à Zurich et Amsterdam en concert, mais c'est la première fois que je le fais en version scénique. Et j'ai vraiment hâte, car c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. La première de Salomé, dirigée par Strauss, a eu lieu à Graz en 1907. Et devinez qui était présent pour la représentation ? Mahler, Puccini, Alban Berg et Zemlinsky.
Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Alban Berg... And Zemlinsky. You see, this is what even today.
Ce qui fait la grandeur de Salomé, c'est la découverte de quelque chose qui n'était même pas concevable au début du siècle et qui, aujourd'hui encore, choque, surprend et provoque une grande émotion et un grand enthousiasme. C'est donc un opéra qui mérite d'être encore et toujours joué et aimé du public.
Le public de la Scala a bien de la chance. Merci beaucoup, Riccardo Chailly.
Merci à vous.
La danse des sept voiles de Salomé de Richard Strauss dans l'enregistrement de Ricardo Chailly avec l'orchestre du Festival de Lucerne. Ricardo Chailly dirigera donc l'opéra Salomé de Strauss à partir du 8 mars à la Scala de Milan avec Malene Bichström dans le rôle titre, mais aussi Roberto Sacca, Anna Maria Chiavi ou encore Michael Folle dans une production mise en scène par Damiano Micheletto. Plus proche de nous dans le temps et géographiquement, il sera encore demain soir à la Philharmonie de Paris, à la tête de l'Orchestre de Paris pour diriger la 9e symphonie de Beethoven. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique spécial Ricardo Chailly ce soir. D'autres grands chefs d'orchestre seront nos invités ces prochains jours. Christophe Eschenbach sera ainsi avec nous mardi prochain. Et puis Simon Rattle le 12 février. Mais lundi, c'est avec un pianiste que nous débuterons la semaine, Adam Laloum, qui vient de nous enchanter au disque dans des sonates de Schubert et qui jouera justement les trois dernières sonates de Schubert mercredi soir en récital au Théâtre des Champs-Élysées. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée en compagnie de Francis Drezel et très beau week-end en musique à l'écoute de Radio Classique.